Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouvelles Portes. Comme à chaque fois, une nouvelle personne et puis de nouvelles découvertes. Alors dans ce nouvel épisode, vous allez voir, on explore beaucoup de sujets parce qu'encore une fois, j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui est très curieux et qui est passé par plein de points d'exploration différents. Cette personne fabrique du gui en famille. Cette personne également s'est massé et connaît l'importance du massage pour une société saine. Cette personne explore également tous les sujets qui vont de l'Orient jusqu'à l'Occident. Et cette personne a une très grande sensibilité et j'espère que vous pourrez ressentir justement toute cette bienveillance qui flottait pendant la conversation, vous de votre côté, pendant votre écoute. Voilà, je vous en dis pas plus. En tous les cas, sachez que cet épisode devrait faire du bien à votre santé, devrait faire du bien à votre cœur, et que ça devrait ouvrir, en effet, de belles portes d'exploration qui ne seront peut-être pas des portes d'exploration intellectuelle, mais peut-être bien des portes d'exploration, d'expérimentation bien plus sensibles. J'en dis pas plus, je vous laisse avec cet épisode, et n'oubliez pas, écoutez jusqu'à la fin, il y a toujours des surprises dans les épisodes de Nouvelles Portes. A tout à l'heure, bonne écoute à tous. Bonjour, bienvenue dans le podcast de Nouvelles Portes. Je suis content de t'accueillir aujourd'hui à Sofa. Je suis aussi content de t'accueillir parce qu'on s'est rencontrés qu'une seule fois et c'est Flavien donc, que j'avais interviewé dans un ancien podcast qui m'a conseillé de te rencontrer et de discuter avec toi. Et en effet, il y a plein de curiosités à mettre en avant dans tes explorations personnelles. Et la première chose sur laquelle je t'inviterai à nous partager des choses, c'est un peu sur toi, juste un peu ton histoire. Juste savoir voilà, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, et puis un peu qui tu es. Et puis au fil de la conversation, on rebondira après sur les différents sujets, si tu le veux bien. Voilà.
Aucun problème, avec plaisir. J'ai été ravie de te rencontrer la dernière fois. C'était vraiment un plaisir, l'échange était très dynamique, très franc. J'aime beaucoup ce profil-là. Je suis une fille qui vient de montagne. Je suis grenobloise d'origine et j'ai eu un parcours légèrement atypique qui a un peu oscillé entre différentes choses. Je faisais de la philosophie et en même temps je faisais GEA qui était plutôt comptabilité, droit, fiscalité. Après, j'ai fait école de commerce. En parallèle, je faisais des formations de massage ayurvédique. Et puis, à la fin, donc, double master. Et j'ai fait... Quand j'ai créé l'entreprise, à la sortie de l'école, j'ai commencé l'école d'herboristerie, l'école des plantes. Donc, oui, j'ai l'habitude de faire des choses en même temps et pas forcément celles qu'on s'attend.
Et comment tu l'expliquerais ça? C'est un trait de ta personnalité? Est-ce que tu penses qu'il y a des personnes qui sont... Moi, je sais que je suis un peu comme toi, mais est-ce que toi, tu penses qu'il y a des personnes qui sont comme ça, à vouloir tout le temps explorer un petit peu dans plein de sujets différents?
Je ne sais pas. Pour moi, à la base, avant, on n'avait pas forcément à être catégorisé dans un seul domaine. Regarde les grands inventeurs, les grands artistes. Ils sont souvent architectes, artistes, mathématiciens en même temps, et poètes, pourquoi pas. Donc je ne vois pas pourquoi on devrait se limiter à une seule chose. On a différentes facettes et c'est beau de pouvoir les explorer et s'autoriser à le faire.
Et c'est cool parce que du coup, tu as renoué avec un fonctionnement qui est plus ancien que le fonctionnement dans lequel on baigne dans notre société depuis un petit moment. Le fait d'accepter que toi, tu es ta personnalité et que du coup, tu puisses...
Ah oui, mais j'ai 150 ans au moins.
Ah, d'accord, ok. Comment tu connais ton âge de 150 ans?
Ah, je sais pas, je trouve que c'est sympa, ça sonne juste.
D'accord, ok. Bon, bah, je suis content de voir la personne la plus âgée du podcast alors. Je crois que maximum, j'avais vu quelqu'un qui avait 55, tu vois. Là, du coup, 150, c'est pas mal.
Non, mais c'est bien. Puis, on n'a pas à voir... Je suis très sensible à tout ce qui vient... Bon, j'ai tendance à avoir une perception du monde qui est quelque peu surannée. Je suis très vieille France, on pourrait dire. Mais parce qu'il y a eu des bonnes choses. Il y a eu des mauvaises choses, mais il y a eu des bonnes choses aussi. Et oublier ses racines, quand on n'a pas de racines, c'est difficile de construire et d'aller de l'avant. Alors c'est bien de s'en imprégner de nouveau pour pouvoir mieux avancer.
Est-ce que c'est une des premières explorations que tu as fait en parallèle, grâce à la philosophie peut-être, ou est-ce que c'était avant, le fait de connecter sur cette idée de si jamais je ne suis pas ancré dans des racines, je ne vais pas pouvoir, pouvoir grandir correctement.
Je pense que ça, je m'en suis rendu compte surtout après mon coma, après un accident d'équitation à 17 ans. Et c'est après le moment où j'étais du coup en convalescence. C'est un moment qui est ralenti, où on doit, donc ce qui est très frustrant, parce que juste avant les 18 ans, on déborde d'énergie, on n'a pas du tout envie de rester bloqué dans un lit. Et pouvoir justement essayer de dompter son esprit en se replongeant dans des choses plus anciennes, plus douces, plus lentes. Avant, on faisait les choses, on prenait le temps de faire les choses. Et pour qu'elles soient bien faites, il faut accorder de l'attention aux choses. Et donc, ça prend généralement un peu plus de temps. Mais c'est d'ailleurs le produit que je fais, le beurre clarifié. On le fait, mais avec la manière ancestrale. C'est-à-dire, on passe 8 heures devant nos casseroles, avec un feu très très bas, de manière à ce qu'on enlève toutes les impuretés, mais de manière très efficace, et qu'on y mette toute notre attention. Donc tout ce qui est fait avec le cœur est toujours meilleur. C'est un adage que j'aime me répéter.
D'accord, et que tu aimes te répéter depuis que tu as fait ces explorations-là.
Oui, mais au départ, je ne le faisais pas qu'avec le beurre.
Oui, voilà, tu faisais avec toutes les autres choses.
Oui, voilà.
D'accord, mais du coup, tu as vraiment eu un changement de personnalité. Excuse-moi, je reviens sur ce passage-là,
oui.
Parce que ça a l'air d'être intéressant.
Ah, oui.
Tu as eu vraiment un changement de personnalité entre avant et après ton accident que tu as eu, ton coma.
Ah, après le coma ?
Oui, par rapport à la notion du temps, comme tu disais, tu vois, le fait que tu as pris le temps et que ça t'a peut-être modifié ta manière de faire après.
Bah ça, c'est Gandhi qui disait quand il était en retard, il disait je médite deux fois plus. Je suis deux fois plus efficace après et j'arrive à tout finir à temps, bien que j'ai pris plus de temps pour méditer, alors que je n'en avais pas au départ. Je pense que tout est centré sur l'attention qu'on porte aux choses, l'attention qu'on porte aux gens, qu'on porte à son environnement. C'est important de faire les choses en conscience. Et c'est quelque chose qui se perd. On est tellement dans une société où on est beaucoup... Tout est dématérialisé, on ne se recentre pas assez sur la matière, sur l'être. On est beaucoup dans le paraître, dans la spontanéité, dans la rapidité, sans connecter avec le fait que, de toute façon, quand on sait qu'on est mortel et qu'on a un sablier au-dessus de la tête qui est en train de se répandre. Donc le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Autant l'utiliser comme il faut. Et ne pas le gaspiller ou le perdre inutilement.
Du coup, ce qui est intéressant, je trouve, dans ce que tu me dis, c'est que tu as ce rapport au temps qui est de dire on l'utilise de manière la plus sincère et la plus juste possible.
Oui.
Que pour pouvoir faire ça, du coup, tu as le côté ancrage avec le passé,
mm-hmm.
qui te donne un peu des guides
oui.
pour...
sachant que je ne suis pas que vintage, hein.
Mais c'est ton point d'ancrage, quoi.
Oui, c'est mon point d'ancrage.
Dans les racines, dans le mm-hmm. fonctionnement du passé, et qui te permet derrière, après toi, de pouvoir donner l'attention là où tu le sens, et d'être conscient, justement, de cette importance-là, d'être dans le détail, quoi.
Mm.
Et c'est intéressant parce que du coup, on va pouvoir parler de ton projet du coup sur le beurre clarifié. Mais ce que tu disais juste avant, c'est que c'est un peu un symbole au final de ton fonctionnement, ce beurre clarifié. Le fait de le faire de manière traditionnelle, d'y prendre le temps et de se dire que dans les ingrédients, tu mets aussi
de l'amour, de la bienveillance et de l'attention. Oui, ça c'est quelque chose qui est assez important pour moi. D'ailleurs. Quand on est parti avec l'idée du beurre clarifié, c'était Par exemple, bah, du coup, parce qu'on était toutes les trois générations sous le même toit, ma grand-mère, ma mère et moi. Et on a trouvé que c'était intéressant parce que ma mère est revenue avec l'idée. Elle est arrivée, elle me disait, oh, elle raconte donc à ma grand-mère, est-ce que tu connais le gui, un produit aux mille vertus? Donc s'il est bon pour la santé, il est fait depuis des années, on l'a toujours fait, ça fait partie de la culture ayurvédique. C'est super bon pour diminuer le mauvais cholestérol, augmenter le bon, ça augmente les pouvoirs des épices qui lui sont mélangées. On s'en sert pour enlever les brûlures, quand par exemple parce que c'est rafraîchissant. Enfin bref, c'est un produit aux mille vertus. Est-ce que tu connais maman? Sachant que ma grand-mère est une grande cuisinière, c'était la base, elle aurait dû connaître. Je dis, non, pour moi, le gui, ça pousse dans les arbres et on s'embrasse dessous à Noël, mais sinon, non. Et là, elle fait, mais si, tu dois connaître le gui ou le beurre clarifié. Et là, ma grand-mère s'exclame en brandissant sa cuillère en bois, mais bien sûr, moi. Tu parles du beurre clarifié, des marmites, j'en ai tourné pendant la guerre. Hein. On clarifiait le beurre, bah, surtout parce que ça se conserve en température ambiante. Et que ça évite de faire brûler quand on fait cuire de la viande avec. Donc bref, elles sont parties là-dessus. Sur ce, moi je suis arrivée. Donc dans la conversation, il y avait les deux, ma grand-mère et ma mère. Et moi j'arrive. Et là, elles essaient de me dire, ah oui, de me parler de nourriture, c'est super ce produit, viens, on va essayer d'en faire. Et j'étais dans une période un peu où j'avais décrété que l'agroalimentaire, non, moi, jamais. La famille, ils avaient toujours été dans la nourriture, c'était un peu le côté rebelle, mais je voulais changer, me démarquer. Et je dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est les massages ayurvédiques. Je commence une formation et ce que je ne trouve pas encore, c'est une huile qui soit assez fine pour des massages aussi fins et délicats et subtils. Mais si vous voulez, je peux vous faire les recherches parce que je suis quand même appliquée. Mmh. Et je pense que ma mère a souvent des bonnes idées, surtout en ce qui concerne la nourriture.
Okay.
Donc, bien appliqué, je vais faire des recherches sur Internet. Là, on est en 2012. Et je tombe sur une Californienne, masseuse ayurvédique et prof de yoga, qui fait quoi? Du ghee. Donc, je me suis dit, mais dans ce cas-là, c'est qu'il y a un lien peut-être avec les massages. Donc, je fais plus de recherches sur Internet. Et là, j'apprends qu'en Inde, ils font des massages avec le ghee et que ça a de fortes vertus au niveau des douchas, surtout pour rafraîchir Pitta. Et que c'est le meilleur des corps gras pour les trois douchas. Bref, je me suis dit, c'est top, ça nous réunit toutes les trois sur un projet. Ma mère sur la nourriture, moi sur le côté massage, ma grand-mère parce que c'est l'histoire et forcément, elle est forcément dans les bonnes histoires. Et donc voilà, c'est comme ça que c'est né.
Ok, super.
C'est comme ça que ça a émergé.
Et du coup, voilà, t'as tout le bagage familial et émotionnel que tu peux injecter dans le ghee quand tu le prépares.
Oui, non, mais c'est ce qu'on peut dire.
Je trouve ça intéressant parce que moi, je m'étais pas mal renseigné. Je pense qu'il faudra qu'on développe un peu sur ce que c'est que l'Ayurveda et ce que c'est que les doshas, parce que peut-être pas tout le monde connaît. Mais quand je m'étais renseigné un peu dessus, justement, il y avait aussi cette dimension... en rapport avec le ghee, donc comme le disait ta grand-mère, le point de vue purement matériel du ghee, c'est qu'en effet, quand on le chauffe, ça brûle pas, et que ça peut se conserver à température ambiante, on n'a pas besoin de mettre au frigo ou quoi que ce soit. Et après, la vision plus orientale, c'est qu'en effet, à l'intérieur de tous ces ingrédients fantastiques, la formule magique, il y a aussi toute l'intention et l'attention que la personne y met quand elle le prépare. Et en plus de ça, quand c'est pour des soins, comme tu dis, des massages, il y a aussi toute l'intention et l'attention de la personne qui est en train de masser en plus de ça. Et donc, toute la dimension magique n'est pas forcément que dans la matière, dans la manière de penser orientale. Alors qu'en Occident, c'est un peu plus comme ta grand-mère.
C'est pratico-pratique.
Voilà, c'est ça. Bon, pendant la guerre en plus, quoi. C'est ça qui est rigolo.
Non, mais ça, c'est, bah, c'est ma grand-mère. Le côté dramatique, elle arrive parfaitement à l'insérer dans, à toutes les sauces.
Et donc, ouais, si je rebondis un peu sur l'Ayurveda, pour l'expliquer peut-être un peu avec tes mots, et puis où est-ce que tu l'as découvert du coup? Parce que donc, tu parlais de philosophie, GEA, et après, l'Ayurveda a débarqué là.
L'Ayurveda, c'était. C'était pendant ma première année, enfin lors d'un voyage, j'ai rencontré l'Ayurveda via un massage qui m'a été délivré par un masseur, enfin un médecin sri-lankais qui faisait des massages ayurvédiques. Et là, j'ai vécu une chose étonnante. Est-ce que tu te souviens comment tu étais dans ton corps à 7 ans?
Non, je ne me rappelle pas.
Bon. Eh bien, figure-toi qu'après 2 heures de massage sur une table en bois, absolument, j'étais imbibée d'huile. C'est-à-dire que le médecin, à la fin, il m'a aidée à me lever et pourtant le sol n'était pas lisse. Je glissais, mais littéralement comme une sardine pleine d'huile. Et là, je prends mon vélo et je vais rejoindre ma famille. Et en prenant le vélo, je me suis sentie exactement comme je me sentais quand j'étais petite et que je prenais mon vélo pour partir rejoindre mes copines dans les champs le matin très tôt. Une fraîcheur, une vitalité, j'ai jamais réussi à le retrouver, cette sensation, mais c'était tellement beau, tellement délicat que je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelque chose à apprendre, il faut que je gratte un peu plus pour... Et donc bon, bien sûr, j'étais en plein dans mes études, j'ai continué le parcours classique, mais toujours en me disant qu'il y avait une dimension qui manquait, il manquait quelque chose. Le côté très pragmatique, ça je l'ai eu, ça à l'école, j'étais très pratico-pratique, j'ai tout appris ce qu'il fallait, bien dans l'ordre, mais... Et ça me manque à énormément, enfin je retrouve ce manque vers plein de mes amis en discutant, c'est... Retrouver le sens. Pourquoi on fait les choses? Comment on fait les choses? Où on veut aller? Quel sens on veut donner à ce qu'on fait et à sa vie en général? C'est important de donner du sens aux choses. Et y porter de l'attention, c'est une manière de le retrouver. Mais pour répondre à ta question, du coup, pendant mes études plutôt classiques, ma mère a rencontré une prof de yoga qui, par miracle, donnait des formations de massage ayurvédique juste à côté de chez ma grand-mère.
D'accord, ok.
Donc, comme c'était quoi. Génial. Et du coup, c'est comme ça que j'ai appris avec cette dame qui s'était formée en Inde et qui collabore avec d'autres professeurs qui sont sur Paris, qui ont des centres et qui se sont formés en Inde aussi. Et ils ont ramené tout ça à côté de chez ma grand-mère.
Ok, parfait.
Donc, c'était parfait. Les planètes étaient alignées. Et du coup, je les ai fait. Ça m'a permis de pouvoir les faire en parallèle de l'école de commerce.
D'accord. Et donc, comment ça s'est passé, du coup, cette exploration-là? Est-ce que tu as réussi à... tu as commencé à pratiquer, du coup, des massages?
Oui.
D'accord.
Ah, mais c'était super. Ça, mes copines ont adoré. Parce que bien sûr, j'avais besoin de dos pour m'entraîner. Et du coup, le prétexte, c'était « Ok, je te prépare le thé, mais tu me prêtes ton dos. » Et du coup, on passait des soirées comme ça, où elles me prêtaient littéralement leur corps.
Et avant ça, tu avais déjà fait des massages ou des choses comme ça?
J'avais appris les massages suédois un peu, une fois. Mais c'est pas... C'est agréable, ça aide beaucoup pour quand on a fait du sport, pour enlever les courbatures, mais ce n'est pas vraiment ce que je préfère. Et puis, je pratiquais bien sûr le massage intuitif, mais ça depuis que je suis toute petite. Parce que pour moi, on est des animaux et les animaux, ils ont besoin de se toucher entre eux. D'ailleurs, on remarquera que quand on est un peu dépressif, déprimé, ce qui peut arriver, hein, ben on n'a pas envie d'être touché, on n'a pas envie de contact avec les autres. Donc, pour moi, c'était une manière de mettre du lien entre les gens et de me faire du bien, d'une part, parce que ça me fait du bien de pouvoir communiquer, interagir avec les gens, mais aussi de faire du bien aux gens et pour qu'ils soient bien tout le temps. j'ai eu une culture avec mon corps, j'ai jamais eu de problème de blocage ou quoi que ce soit. Depuis que je suis bébé, je suis massée pratiquement minimum une fois par semaine.
D'accord.
Donc, c'était les papouilles. Mais sinon, oui, quand on était bébé, on était massé presque tous les jours après le bain avec de l'huile d'amande douce. C'était un cérémonial.
Et un cérémonial qu'on retrouve d'ailleurs dans les traditions indiennes.
Exactement.
Qui, du coup, depuis la petite enfant, justement, et depuis le nourrisson, il masse avec les huiles adaptées l'enfant pour arriver à faire en sorte de lui apporter ce qu'il a besoin. Vu que les bébés ont un besoin tactile,
c'est énorme, c'est le besoin principal. Ah bah oui, ça c'est vrai.
Et donc toi, tu as ce côté-là, justement, j'aurais envie de dire tribal du massage.
Tribal, oui, oui, bien sûr.
Côté ancestral du massage, je veux dire le fait que c'est normal en fait
de se
masser. C'est normal de masser les autres parce qu'on est est des animaux et que les animaux le font. Tu vois, tu as cette vision-là.
Ouais. Pour moi, c'est pas on va se prendre un massage, c'est pas ça devrait se faire tout le temps. Moi, ça m'arrive de mes amis quand. Des fois, je leur chope les épaules et je leur fais quelques papouilles quand je vois que ça va pas ou qu'il y en a besoin ou même juste parce que j'en ai envie. Et il n'y a rien de mal à ça. Enfin, c'est dans nos sociétés un peu occidentales, on peut associer massage avec des choses un peu, enfin, presque des connotations un peu sexuelles ou autres. Mais en fait, non, pas du tout. C'est la base. Le massage, c'est la base. C'est juste, on prend soin de notre corps. D'ailleurs, pratiquer l'automassage presque quotidiennement, c'est très, très bien. Et moi, je le recommande. Le soir, avant de s'endormir, d'ailleurs, tu peux le faire, le proposer à ta demoiselle aussi. C'est, tu prends une huile basique, tu t'en mets un peu sur le ventre, tu vas mettre une goutte de basilic tropical, d'huile essentielle de basilic tropical sur la pointe de tes doigts, tu vas toucher les quatre points cardinaux. Et après, tu vas mettre sur le plexus solaire une goutte de lavande vraie. Et après, tu vas faire des vagues dans le sens horaire d'une aiguille de montre. Et comme ça, normalement, ça va te faire gargouiller le ventre, tu vas voir. Mais ça, c'est que ça circule bien, du coup. Ouais. Donc c'est bon, il faut que ça circule, il ne faut pas hésiter à le faire quotidiennement de manière à préparer aussi l'endormissement. Ça, c'est pour ceux qui ont l'esprit un peu agité le soir aussi.
Et donc pour toi, c'est vraiment une composante du quotidien, le massage, quoi. C'est quelque chose qui, si on n'était pas dans notre société, qui était justement pas... On a perdu en fait un lien, un peu comme le lien que tu disais avec les traditions, quoi. On a perdu ce lien aussi là avec notre corps, et du coup ça se passerait comment pour toi une journée dans ce monde où on n'aurait pas perdu ce lien? Ça veut dire qu'on serait, quand on serait entre amis, on serait tout le temps un petit peu en train de se masser, le matin on se fait des automassages, le soir on masserait notre compagne ou un ami si on est en coloc, enfin ça serait un peu...
Mais c'est pas forcément le mettre à toutes les sauces, parce qu'après il y a forcément des moments où c'est un peu plus délicat, quand on travaille, quand... Mais pour moi il devrait pas y avoir cette gêne en fait, par exemple quand... C'est en voyage, quand j'étais en Inde. Au départ, moi, j'étais plus petite. Mais ça m'a étonnée de voir deux amis qui se tenaient la main. C'était deux amis qui se tenaient la main. Comme on était petite, eux, ils étaient un peu plus grands. Et ils n'étaient pas ensemble. Et il n'y avait pas de... Mais tu vois, comme le regard... Même mon esprit avait déjà été... Les croyances avaient déjà été tellement imprégnées, alors que je n'étais pas très grande, que je m'étais dit forcément « Ah ouais, ils sont ensemble », alors que non, c'était peut-être juste des amis. Donc le fait tout simplement de se tenir la main, de se toucher, quelqu'un a mal, de poser la main sur l'épaule ou pas avoir de problème à interagir ou faire des massages, forcément, bien sûr, mais là, il faut être quand même dans un cadre, tout simplement parce qu'il ne fait pas la même température qu'en Inde et que tu ne vas pas te déshabiller là, par exemple, vu comme il fait froid.
Et ça se passe comment, ça se passe comment un massage ayurvédique?
Un massage ayurvédique.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se déroule? De ton point de vue à toi, comment tu interagis avec la personne? Comment ça se...
Déjà, quand la personne vient pour un massage ayurvédique, Donc je lui explique ce que c'est, je lui parle un petit peu des doshas, puis là on commence à discuter. Et comme ça, je vois un peu dans quel état émotionnel aussi elle peut être. Et puis si elle a des douleurs, parce que enfin, c'est comme tous les massages, on demande toujours si on a des... Il y a un problème au lumbago, ou un problème au genou, ou un problème dans le dos, ou dans la nuque, enfin bref. On ne sait jamais, nos corps, ils sont pas incassables. Et du coup, moi, mon but, c'est pas d'empirer les choses. Donc je demande toujours ça, je la laisse parler, enfin je le fais parler de son état émotionnel du moment. Et après je vais lui expliquer sur ce que je pense qu'elle peut avoir, je lui explique ce que je vais lui faire, pas qu'elle stresse, parce que sinon ça va mettre à tous les coups du vata dans la vie critique que je vais prendre. La vie critique, je la prends avec le pouls. Donc je vais prendre le poignet de la personne, le droit pour les garçons, le gauche pour les dames.
D'accord.
Et je vais voir dans quel état, quel est son état du moment. Parce qu'on a toujours deux états. Donc bien sûr, ça peut être, on peut être samadosha, avoir les trois doshas en même temps. Donc là, on est équilibré, c'est plutôt bien. On n'a pas de pic d'un des trois doshas. Donc là, on va faire un massage qui va équilibrer un peu tout, pour que ça reste dans cette continuité.
Si je synthétise juste avant, les doshas, du coup, c'est les trois...
Ah oui, c'est les trois types de personnalités.
D'accord, donc, c'est des sortes de jauges qui sont plus ou moins remplies chez chacune des personnes. Et...
Oui, on a tous les doshas en nous, autant dans notre corps, dans notre constitution, notre prakriti, l'état de constitution, que dans notre vikriti, l'état du moment, c'est-à-dire ce que l'on vit, et qui va correspondre à plus à nos humeurs, voilà.
Okay.
Ou nos petits désagréments passagers.
D'accord, donc on a un équilibre particulier sur nos doshas. Ça, du coup, tu peux arriver à le détecter.
Alors,
en
moi,
posant les questions,
oui.
Ou en prenant le pouls.
Avec le pouls, moi, je peux voir la vikriti.
D'accord. L'état du moment.
L'état du moment, okay. Exactement. Mais on peut voir beaucoup plus de choses avec le pouls. J'ai pas encore suffisamment de finesse dans les doigts pour pouvoir prétendre voir plus que ça pour le moment. Mais on peut voir vraiment beaucoup, beaucoup de choses.
Et donc, des docteurs en Ayurveda, du coup,
ils
peuvent voir même les doshas, principaux, enfin les doshas de constitution.
La prakriti, bien sûr, mais d'accord. Pour ça, on peut le voir aussi par rapport à différentes choses. On n'est pas obligé de le prendre avec le pouls.
Ok. Et donc, tu détectes l'équilibre de la personne.
Mm-hmm.
Et ensuite, comme tu disais, si jamais les doshas sont équilibrés, tu fais un massage...
Qui va pas déséquilibrer le tout, qui va prévenir, qui va être adapté à la saison et qui va permettre à la personne d'être d'apprécier. On peut aussi faire un massage pas dans le but de soigner quelque chose. Hein. Ça peut être juste agréable.
Ouais, juste pour le plaisir.
Bah ouais, et parce que c'est cool. C'est cool de se faire papouiller pendant une heure aussi. Enfin, ouais. Papouiller, non, masser.
Et si jamais la personne n'a juste pour le plaisir parce qu'elle n'a pas la chance d'être dans un équilibre, du coup, là, tu vas pratiquer des massages qui vont être adaptés.
Ça va être en fonction tous les... J'ai tous les... Comment dire? Chaque massage que j'ai en fonction de chaque dosha, s'il y en a un qui est plus ou moins déséquilibré, j'ai des... c'est pas des protocoles, j'aime pas appeler ça des protocoles parce qu'il y a aussi une part de feeling, c'est en fonction de comment la personne est, de ce qu'elle ressent. Donc c'est vraiment, on va adapter la pression, on va adapter les huiles de massage. Et après, les parcours, je ne me prétends pas être un docteur ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour le bien-être, mais je vais adapter les pressions et les passages en fonction de ce que la personne vit en ce moment et comment rééquilibrer un peu.
D'accord.
Et lui apporter plus de confort.
Et en fonction de la partie du corps aussi ou pas? Est-ce que tu sais, suivant les déséquilibres, ou est-ce que c'est global sur tout le corps, ou est-ce qu'il y a des zones
Après, je sais qu'il y a des centres où sont... Il y a les temples, par exemple, pour tout ce qui est vata. Quand on a des problèmes vata, généralement, on va avoir des problèmes de dos, le bas du dos, tout ce qui est colon, ça ne va pas être bon. Quand c'est kapha, ça va plus être au niveau de l'estomac, la partie haute. Quand pitta, ça va être la partie basse, aussi toute la partie digestive, on va avoir tendance à avoir ça va être irrité. Donc ça, après je sais que si on a la peau, des problèmes de peau, ça peut être plus pitta. Enfin, après, c'est en fonction de... Je sais que certains doshas se manifestent plus dans des parties du corps que dans d'autres.
D'accord.
Donc après, à moi de poser les bonnes questions et d'aller repérer pour ne pas déranger et pour apporter du confort.
Et si par exemple la personne... juste pour avoir un exemple, mais si par exemple la personne a un déséquilibre pitta, donc tu dis c'est plus dans le ventre, l'estomac, et que c'est plus une irritation, toi tu vas traiter ça comment par le massage? Tu vas aller masser sur cette zone-là ou est-ce que tu...
Non, je vais lui apporter plus une... Comme elle est chaude, on va lui apporter une huile rafraîchissante.
D'accord.
Pour essayer de faire baisser le feu. Et après, je ferai des petits conseils alimentaires. Comme je sais que, par exemple, le ghee, ça calme le feu, je vais lui proposer d'en prendre plus souvent dans ses plats.
D'accord.
Et donc, pour préparer à manger, d'éviter les épices trop fortes, okay. Pour ne pas irriter.
Et pour le massage rafraîchissant, tu le fais sur la zone qui correspondrait... Enfin,
ah oui,
à pitta, ou tu le fais ou c'est sur tout le corps?
Non, sur tout le corps. Et je vais passer aussi sur la zone, bien sûr, sans, comme je sais qu'elle est irritée et chaude. On ne va pas appuyer, et puis c'est difficile d'appuyer sur le ventre. Enfin, il ne faut pas appuyer sur le ventre.
D'accord.
Il y a plein de choses fragiles dedans, quand même.
Ok.
Mais par exemple, si t'es vraiment en feu, il faut faire un massage au ghee lavé. Donc là, on part de ghee nature, qu'on va émulsionner plusieurs fois sous l'eau jusqu'à obtenir... Donc le ghee, c'est un peu liquide, comme une pâte jaune vif. Et ça va devenir une mousse blanche. Qui
D'accord,
va avoir
okay.
un effet mais hallucinant. Quand j'ai fait la formation, c'était au mois de juin en montagne. Il faisait quand même chaud. Donc j'étais en short. Et du coup, là, on teste sur nous, parce que bien sûr, on était nos propres cobayes. Le ghee lavait. Et ben, je peux te dire que j'ai remis un pantalon et dardard. Parce que ça faisait tellement froid l'effet. Donc on a mis ça. Après, on allait prendre une douche pour se calmer. Mais ça nous a fait de la fraîcheur, mais un truc hallucinant. Comme si tes jambes étaient dans du glaçon, alors qu'on était au mois de juin.
Et comment t'expliques que ça fasse si froid? Parce que, pareil, on n'a pas précisé spécialement, mais le ghee, donc, c'est du beurre clarifié. Donc,
oui.
c'est du beurre.
Ouais, c'est du beurre.
Donc, voilà.
On parle d'un beurre de vache classique.
Voilà, c'est ça, duquel on enlève en faisant
chauffer. Caséine, lactose et eau. Et voilà. On obtient un lipide pur, aux fortes valeurs nutritionnelles et aux fortes vertus aussi, étonnantes vertus plutôt, je dirais, comme le côté rafraîchissant. Mais d'ailleurs, les chefs, quand ils ont toujours du beurre clarifié sur un coin du fourneau, parce que quand ils se brûlent avec le four, ce qui arrive fréquemment, pour être une grande cuisine, enfin pour beaucoup cuisiner, je peux te dire que des brûlures, j'en ai eu. Et ben quand tu mets, donc tu coupes le feu avec l'eau et après direct tu mets du beurre clarifié et ça évite d'avoir une cloque et que ça cicatrise mal. Oui, parce que ça favorise aussi la reconstruction des tissus externes et internes.
D'accord, ok. Ouais. Et donc ça c'est une espèce de... Puis je trouve ça beau d'ailleurs quand c'est liquide, parce qu'on dirait vraiment de l'or en fait.
Ah, j'aurais dû t'en amener un peu.
C'est une couleur or, c'est super beau.
Bah ouais.
Et donc de ça, on arrive à en faire une mousse qui du coup est ultra fraîche. Et du coup, le procédé
fraîche.
Pour faire la mousse, du coup, c'est quoi
exactement? Ah, ça, c'est procédé secret.
Ah, voilà. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose de secret que j'allais peut-être pas réussir à avoir. Dommage.
Il faut de l'eau florale.
De l'eau florale.
Ouais, d'accord. Eau florale. Eau des montagnes, de préférence. Florale, parce que tu auras mis des pétales de fleurs dedans, que tu auras retiré au bout de quelques minutes. Et après, tu vas laver le ghee plusieurs fois.
D'accord. Donc, tu mélanges ça au ghee et après, tu laves le ghee.
En fait, tu ne vas pas mélanger toute l'eau. Tu rinces le ghee avec
ça, d'accord.
Tu l'émulsionnes, puis tu enlèves l'eau, tu remets, tu réémulsionnes. Enfin bref, un nombre de fois assez impressionnant. Mais ça marche. Et c'est impressionnant l'effet que ça fait surtout. Et
puis c'est de la chimie, du coup.
Oh, je ne sais pas si c'est de la chimie.
Quelque part, c'est un peu un travail de chimie qui se fait avec des connaissances traditionnelles.
Oui.
On n'explique pas forcément qu'il y a des molécules qui... Il doit y avoir des molécules des fleurs qui doivent se mélanger avec le ghee ou je ne sais pas. Tu vois, il va se passer quelque chose, une transformation dans le produit, en fait.
Sûrement. Je ne sais pas.
D'accord, j'irai creuser là-dedans.
Non, mais tu iras creuser, je pense. Mais pour le coup, je ne sais pas. En tout cas, l'effet est assez impressionnant.
Et donc, tu utilises ce ghee pour masser les... Je continue sur le massage, mais pour masser les personnes. Et combien de temps ça dure? Ça dure 2 heures, comme l'expérience que tu nous racontais, que tu avais eu toute petite. Tu masses pendant autant de temps.
Moi, je ne tiens pas 2 heures. Je tiens 1 heure et demie.
D'accord.
Mais il y a une demi-heure de... Enfin, je peux aussi faire la consultation, ce qui fait un total de 2 heures. Mais j'essayais de tenir plus maintenant sur un format de 1 heure, parce que les gens n'ont pas tous 1 heure et demie à mettre... les gens sont à la recherche de temps. Et même quand c'est du temps pour eux, ils n'arrivent pas à s'accorder autant de temps. Ce qui est quand même fou. Donc maintenant, je faisais tenir le format sur 1 heure. Et maintenant, j'ai même adapté certains massages. Je fais du 40 minutes. Comme ça, efficace, mais comme ça, les gens peuvent en faire plus souvent. Puisqu'ils n'ont pas forcément à se dire, oui, alors 1 heure et demie, quel jour ça va pouvoir. Non, 40 minutes, ça passe vite. C'est facilement calable dans une journée.
Ouais. Plus de régularité.
Et chose, c'est pour ça, pour que les gens se tiennent à cette régularité, toujours dans l'idée, j'avais décidé de former les gens au massage pour que, entre les différents grands massages qui se faisaient avec un professionnel, ils puissent chez eux, le soir, quand il est 21h, on n'a pas forcément envie de faire venir un masseur chez nous, ou bien on ne veut pas avoir 1 heure et demie de massage parce qu'on s'endormira avant. J'avais commencé à apprendre aux gens à se masser entre eux. Comme ça, eux, ils tenaient. Ils pouvaient se masser régulièrement, 20, 30, 40 minutes. Et de temps en temps, on se prend un grand massage. Et ça évite que ça déséquilibre beaucoup entre les grands massages.
Oui, parce qu'en fait, avec le massage, tu arrives à faire en sorte de rééquilibrer la personne. Mais si elle continue son rythme de vie habituel...
On redémarre... Enfin, je ne suis pas magicienne. Je ne peux pas tout réguler d'un coup. Mais je lui apporte... J'espère, du confort dans sa vie pour qu'elle soit mieux dans sa tête, dans son corps. Et quand on est bien là-dedans, généralement ça va. Mais si on se remet à repartir sur nos dérives, mais on n'y peut rien, hein, tout le monde vit, regarde notre environnement, c'est pas facile d'avoir une vie très harmonieuse dedans. Et si on n'a pas des petites piqûres de rappel, on a tendance à se laisser embarquer par le flux, ce qui est normal, ce qui est humain. Mais du coup, d'avoir la possibilité de pouvoir s'automasser ou bien se faire du massage en couple ou entre copines ou entre copains ou une mère, une fille ou un père, un fils, je ne sais pas, ça évite de laisser... Ça fait des rappels. Mmh. Et c'est bien. Même pour notre corps. Et puis, c'est important que les gens remettent le massage dans la vie courante. C'est la base.
Ça semble être la base.
Oui.
Mais c'est très éloigné, en effet, de notre culture occidentale.
C'est vrai.
Tu arrives à réduire sur 45 minutes, mais je suppose qu'il doit y avoir quand même une grande différence entre un massage qui est fait sur 40 minutes et un massage qui est fait sur 1h30 ou 2h.
Oui.
Est-ce que tu arrives juste à peine à faire le travail qu'il faut sur 40 minutes? Tu vois, comparé à 1h30 ou...
C'est différent. C'est pas les mêmes choses. Enfin, on recherche pas la même chose quand on fait du 40 minutes ou quand on fait du 1h30.
D'accord.
1h30, on rentre vraiment on va vraiment être là totalement. De toute façon, à partir du moment où on se fait masser par quelqu'un de manière ayurvédique, il faut considérer que la personne qui est massée est un prince ou une princesse sur un lit et que nous, on est juste là pour lui faire du bien. Donc, on doit vraiment prendre soin. Donc, en 40 minutes, on a un peu moins le temps, on fait les choses un peu plus rapidement ou on passe un peu plus vite. C'est plus du confort, de la détente, ce qui est important, qu'un vrai grand, profond massage d'1h30, 2 heures.
Et comment ça se passe, toi, quand tu rentres dans cette relation de massage? Je veux dire, parce que vu que ma copine est masseuse aussi,
oui.
Elle m'a un peu parlé du rapport avec le massage, oui. Mais moi, de ce que j'ai pu expérimenter en massant aussi, il y a toujours un moment où tu sens que tu es vraiment en train de prendre soin de quelqu'un. Mm-hmm. Et après, il y a un moment donné, quand tu masses, tu peux te perdre aussi dans ce que tu es en train de faire. Je veux dire, par là, que tu rentres dans un espèce de flow et que tu...
Oui, mais après, c'est...
Et du coup, c'est toi qui... Tu réfléchis oui. encore ou est-ce que ça déroule tout seul? Comment
non.
ça se passe
bah,
pour toi?
Après, c'est... Pour ma part, c'est complètement... Après, c'est... Oui, comme une suite de ma personne. C'est, j'ai plus l'impression de suivre un procédé. D'ailleurs, je perds la notion du temps, ce qui... fait que des fois je déborde beaucoup mais après on est là complètement pour la personne et on ressent, mais ça c'est n'importe qui, quand tu t'approches, quand tu rentres dans la bulle de quelqu'un, tu vas choper un peu bon alors là après faut, on y croit pas, mais tu te connectes, tu te mets sur la même fréquence que la personne et du coup le tout c'est de pas se perdre là-dedans. Mais tu peux sentir beaucoup de choses, des choses étonnantes des fois d'ailleurs. Mais
tu peux nous en partager un petit peu.
Non, ça c'est private.
On rentre pas là-dedans.
Okay, on rentre pas là-dedans.
Et sur les fréquences, on peut rentrer ou pas?
Ah, sur les fréquences.
Parce que ça, je pense que ça peut être intéressant.
Oui,
Il y a le côté, il y a le côté matériel aussi. Je veux dire du massage, il y a le côté physique. Quoi,
oui, ah bah complètement. T'es dans la matière.
Mais après, il y a aussi une dimension
t'as
peut-être.
T'as le corps éthérique. Aussi.
Ok, le corps éthérique. Donc
le corps éthérique qui est juste au-dessus. D'ailleurs, que tu vas déposer sur... t'as pas remarqué, à chaque fois qu'on revient de vacances, on est obligé de tout toucher dans son appartement pour se le réapproprier. Mmh. Enfin, moi, je sais que j'ai ce truc-là, mais je sais pas pourquoi, je range... Enfin, déjà, je range mes affaires parce que je viens de rentrer. Mais je déplace les choses, je les touche, ou même je les soulève, je les repose. Enfin... de me réapproprier les choses. Et ça, c'est parce que... Alors ça, on y croit pas. Mmh. Mais quand on touche les objets, on laisse une trace éthérique de notre passage. Enfin, c'est comme si on soulevait, on met un marqueur. Bah, je sais pas, c'est comme si on marquait notre territoire un peu.
D'accord,
en gros,
okay.
D'un point de vue éthérique.
Et du coup, comment tu définirais, toi, le corps éthérique pour ceux qui,
C'est comme une sorte d'aura. Le corps éthérique, c'est ce qui nous entoure. C'est juste au-dessus de la peau.
D'accord.
Voilà. En gros, c'est comme comme une aura un peu. On va lui donner 5 cm d'épaisseur et se dire qu'il est réparti partout autour de nous. Non, je n'ai pas de terme précis pour pouvoir parler de ça. Mais pour moi, c'est notre marqueur. C'est comme pour des animaux, on va lisser notre trace éthérique. Donc on va la lisser. Quand on rentre dans la bulle de quelqu'un, et du coup le toucher, donc on va traverser ce corps éthérique et du coup on va sentir différentes choses. D'ailleurs, quand on est, je ne sais pas si ça te le fait toi des fois, mais quand tu es à côté de quelqu'un et que la personne elle a vécu quelque chose de pas très confortable dans sa journée, et d'un coup, tu te sens plombé, lourd, pas bien. Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et en fait, ce n'est pas toi. C'est la personne à côté. C'est juste que tu as capté, je ne sais pas, certains parlent de mauvaise atmosphère, de mauvaise énergie. Tu as capté des choses qui ne sont pas à toi, mais il ne faut pas te laisser polluer avec. Et le tout, c'est de rester dans ton énergie. Et quand on fait un massage, le but, c'est que tout le monde soit sur une bonne vibe. En gros.
D'accord. Ouais, donc toi, forcément, il ne faut pas que quand tu vas intervenir sur des personnes...
Non, il ne faut pas que je sois fatiguée.
Tu portes des choses qui soient lourdes, sinon tu vas avoir beaucoup de mal à ne pas les...
À pas les transmettre, c'est horrible. T'imagines, la personne vient se faire masser pour être tranquille et repartir sur un bon mood. Et toi, tu vas juste te décharger tes valises. En fait, c'est en gros, tu lui refiles ta patate chaude. Mmh. Donc non, il faut que tu sois bien centré, bien calé avec ce que tu ressens aussi.
C'est vraiment toute une dimension émotionnelle aussi qui est
c'est là. Peut-être aussi parce que je suis un peu hypersensible.
Mais c'est ça qui est intéressant aussi en termes d'expérience pour toi, je suppose.
Ah oui.
Et du coup, tu peux ressentir les émotions des personnes directement en les massant. Et je ne sais plus où c'est que j'avais vu ça une fois, mais ce n'était pas une personne qui était dans le massage, je crois que c'était avec une kinésiologue.
Ouais.
Qui du coup... la pratique de la kinésiologie, normalement, c'est qu'ils arrivent à ressentir aussi tout ce qui se passe dans le corps éthérique de la personne. et du coup les différentes émotions, et même de savoir d'où les émotions elles viennent, et savoir si c'est les émotions qui appartiennent à la personne ou si c'est les émotions qui appartiennent
à quelqu'un d'autre encore,
à ses ancêtres et tout. Donc ça, c'est tout le lien aussi avec la descendance.
Ouais, le transgénérationnel.
Voilà, le transgénérationnel, exactement. Et du coup, ce qui était intéressant, c'est qu'elle arrivait vraiment à sentir les émotions de la personne physiquement, quoi. Enfin, c'était le lien direct, quoi. Voilà. Et donc, je me dis que dans le massage, tu dois aussi pouvoir avoir ce type d'interaction avec les personnes si jamais elles te laissent accéder à ça en se relâchant complètement.
Oui, et puis il y a des choses... Enfin, ce que je te disais... Enfin, que je dirais
pas. Okay.
Voilà, mais même en prenant le pouls, tout simplement, quand je faisais mes conférences, parce que je faisais des petites présentations produits où je présentais le guide dans les différents points de vente qu'on avait... Et du coup, je proposais ça, et à la fin, je proposais aux gens d'essayer de se faire prendre la vie crédit. Donc, ils me passaient leurs poignets. Et là, des fois, tu as des surprises quand tu prends les poignets. Et puis, mais malheureusement, quand des fois, c'est pas malheureusement, c'était un fait. Des fois, je disais des choses qui n'étaient pas forcément attendues ou qui, au contraire, faisaient résonance avec quelque chose, enfin dans tous les cas, des fois c'était étonnant, la réaction des gens face à ce que je leur disais.
Ouais, parce que malgré toi, tu avais capté quelque chose de la personne.
Après, quand tu captes, tu es là que pour véhiculer, pour transmettre, quoi. Donc, tu redonnes, et la personne, des fois, a fait un pas de recul, et puis, mais comment vous savez ça? Ah non, moi j'ai rien dit, hein.
C'est intéressant. Ouais. La kinésiologie, elle me racontait, de temps en temps, je suis une kinésiologue.
Ouais.
Et elle me racontait. Et moi, je m'intéresse du coup, forcément, à lui poser plein de questions sur comment ça marche.
Oui. Tu es un grand curieux.
Ah, c'est ça. C'est... Et elle m'expliquait ça, justement, elle était juste un médium, en fait, par lequel passait l'information. Donc, en gros, elle capte des choses de toi, oui. Et puis après, elle te le retransmet, parce que du coup, c'est pendant une discussion, elle t'allonge sur le lit, puis tu discutes, en fait. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant parce qu'il y a plein de choses qu'elle dit au milieu d'histoires qu'elle raconte, surtout elle dans sa pratique, elle raconte des histoires de sa vie, des anecdotes et tout. Et au milieu de ça, pouf, il y a des phrases qui arrivent comme ça et qui sont ok, d'accord. Donc elle est en train de me dire des trucs, je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais en même temps, ça me parle énormément ce qu'elle est en train de me raconter. Et c'est comme si ça était une conversation qui n'était pas juste de cerveau à cerveau, mais qui se basait sur autre chose en fait.
Oui, oui. Ben non, moi je suis pas. Alors je suis pas médium ou quoi que ce soit. C'est juste.
Le médium, c'était dans le sens où c'est un moyen pour transmettre quelque chose.
Exactement.
Quoi.
Bon, moi j'en suis pas là. C'est juste, il y a des fois quand tu es très proche de la personne, puis tu captes des choses, mais peut-être qu'elle les laisse transparaître. Après, je t'ai dit que j'étais un peu hypersensible. Donc j'ai tendance à vite repérer des détails. Et qui sont des fois analysés par mon inconscient, et donc je comprends pas d'où viennent les choses que je dis. Mais je les dis quand même.
Parce qu'il fallait que ça sorte.
Parce qu'il fallait que ça sorte. Mais c'est pour ça. En tout cas, à la base, moi, je me suis dit, ça c'est très bien tout ce qu'on peut capter et autres, mais on est quand même des êtres faits de chair et du coup et d'os. Et du coup, c'est quand même important de se recentrer sur la matière. Et pour moi, le gui, il y a le côté spirituel parce que tout simplement, on est le gui. Alors, dans les rituels ayurvédiques, pour représenter l'engendrement du monde par Brahma, tu jettes quelques gouttes de gui sur une flamme, et ça représente l'engendrement du monde.
D'accord.
Donc ça, et ce qui explique certains rituels, par exemple, les Indiens vont toujours avoir une mèche de bougie qui va brûler dans leur cuisine, et avec les résidus de cette mèche, ils vont maquiller les yeux des jeunes enfants parce que c'est anti-infectieux pour les protéger des infections. C'est pour ça qu'on dit, mais les enfants indiens sont toujours maquillés, ils ont des grands yeux.
Ouais.
En fait, on leur protège juste les yeux. Hein, mais du coup, on remet le côté spirituel au service de la matière et du corps. Donc, dans le massage, il faut se servir de ce que l'on peut capter, mais toujours au service du corps, parce que nous, on est là pour le corps. On est un corps, d'ailleurs.
Et comment ça s'est passé pour toi, l'approche vers le massage et toutes les traditions ayurvédiques? Ça s'est passé par des premières explorations qui étaient plus sur la dimension spirituelle, justement, et t'es revenu à la matière par le massage, ou est-ce que c'était plus...
Ah non, j'y ai accédé par la matière.
Voilà, en fait. Par la matière. Et après, du coup, ça t'a forcément ouvert sur le...
Et bien, du coup, après, côté, j'ai appris le côté, la philosophie ayurvédique. Et de ce fait, bien... Après, je me suis intéressée, parce que je suis une grande curieuse, après, je fais les liens. Donc, ça m'a emmenée sur différentes autres choses. Mais surtout, j'ai appris donc les massages ayurvédiques. Et tout, en parallèle, je faisais, donc, je t'ai dit, en école de commerce, dernière année, je faisais mon business plan. J'avais décidé, alors on était deux, c'était très étonnant parce qu'on était suivis par le CJD. On était deux projets. Alors, lui, mon pote, c'était une entreprise. C'était des pièces pour tout ce qui est pour tout ce qui est motocross. Et moi, c'était pour faire des burn massage.
Okay.
Donc, le côté complètement
opposé. Ouais.
Opposé. Enfin, on pense, et on avait tous les quatre tuteurs. Donc, il y avait le côté garçon versus le côté fille. Mais du coup, ils aimaient beaucoup et ça leur parlait énormément. Et donc, je t'ai dit ça parce que j'étais en école de commerce quand j'ai appris les massages ayurvédiques, qui m'a ensuite... Donc, comme j'avais fait sur les burn massages, je me suis dit, ok, mais dans tes burn massages, tu mets aussi des plantes. Sauf que les plantes, tu veux prendre du local, mais tu ne les connais pas. Mmh. Donc, c'est pour ça que j'ai fait l'école des plantes. Et là, moi, je pensais apprendre de la botanique. Mais tu ne sais pas où tu mets les pieds quand tu rentres dans l'école des plantes. C'est tellement merveilleux. Une école de la vie, je t'assure. On apprend plein de choses. Énormément. Donc, bien sûr, des côtés très pratiques. On apprend les plantes, leurs vertus, comment les utiliser, comment les préparer. Et toujours dans une idée de prévention et non de guérison. Enfin, oui, on ne cherche pas... à combattre, c'est pas un combat. L'herboristerie, je trouve que c'est un côté beaucoup plus doux dans le langage, alors que la médecine a un vocabulaire beaucoup plus rude. On va combattre, on va éradiquer, on va isoler, on va... Non, c'est pas du tout un vocabulaire qui me plaît, mm-hmm. Alors que je préfère beaucoup le fait de faire... Enfin, le côté herboristerie, c'est on va prendre soin de... On va prévenir, on va améliorer le terrain. Non, c'est beaucoup plus doux et dans la continuité. Et c'est important aussi les mots et tout ce que le langage peut véhiculer. Et on peut dire beaucoup de choses en voulant dire, ça dépend, tu peux dire deux phrases pour donner la même chose, mais de deux manières différentes, si tu n'emploieras pas les mêmes mots, l'idée c'est la même. Mais ce que tu vas véhiculer parce que la personne va percevoir, parce qu'elle, elle perçoit tes mots, elle ne va pas le prendre de la même manière. Ouais. Il y a toute une symbolique derrière les mots même, et derrière après les lettres. D'ailleurs, ça, c'est...
Oui, et puis j'en ai parlé hier, en plus, ça c'est rigolo.
T'en as parlé hier,
sur le langage des oiseaux.
Le langage des oiseaux, c'est génial. C'est absolument, mais une boîte de Pandore, mais on se rend compte de tout ce qu'on peut faire, de tout ce qu'on... À la base, ça a été créé c'était les alchimistes, pour passer se transmettre leur savoir sans être embêtés par l'Inquisition, passer sous le joug de l'Inquisition. Ils codaient de manière très poétique. Il y a une sonorité, un fluide dans leur manière de s'exprimer. Et c'est vraiment très, très élégant, je trouve. Donc le langage, ça c'est important, la manière de dire les choses, la manière d'écrire les choses. D'ailleurs, je parlais avec un ami hier on prend plus le temps de s'écrire des lettres, mais quel délicieux moment pour nous et pour la personne qui va le recevoir. C'est on a consacré du temps, parce que là littéralement ça prend du temps d'écrire une belle lettre manuscrite, et du temps à la personne, la chose qui nous est le plus précieux. Et on va le partager pour... Enfin, elle va le partager, elle va prendre le temps de lire la lettre. Et après, ça va en plus laisser... C'est une manière d'ancrer les choses dans le temps Et aussi de faire une rétrospective sur celui ou celle que l'on est. Et d'accorder aussi, de montrer l'intérêt que l'on a pour la personne en face.
Donc, c'est un peu comme un massage.
C'est un peu comme un massage.
D'écrire une lettre à quelqu'un et de prendre le temps de ça. Et
ouais.
Même ce que tu disais par rapport au langage oral et la manière de parler, de s'exprimer, de choisir ses mots, même si on veut dire la même chose, suivant le vocabulaire qu'on utilise, c'est un peu un massage aussi pour les oreilles ou un massage aussi pour l'esprit.
C'est prendre soin
c'est
ce qui nous entoure, avec tous les sens.
Et c'est encore quelque chose qu'on a un peu perdu aussi de nos ancêtres, qui avaient un travail sur le langage.
Bah, avant, tout
était très, très recherché.
Toutes les traditions étaient orales. On se passait la culture, on se passait des histoires autour du feu, lors des veillées, ou comme il n'y avait pas la télé. Et ben les gens, ils parlaient. Ils se parlaient entre eux, ils passaient du temps entre eux, ils cuisinaient ensemble. Prendre soin. Alors, le meilleur, alors ça, c'est le côté imparable. Je trouve que la meilleure manière de connaître quelqu'un et d'apprendre à l'aimer et à le connaître et à l'apprécier, c'est de cuisiner ensemble. Parce qu'on va prendre soin, on prend le temps de prendre soin du temple de notre esprit à deux. On partage et on voit ce que l'on prépare pour soi-même et pour les autres. Et on va y mettre de l'intérêt pour ne pas faire brûler le tout. Donc on va y mettre de l'attention, donc de l'amour aussi et de la bienveillance. C'est très thérapeutique de faire à manger ensemble, je trouve. On devrait plus faire ça dans nos vies aussi. Plus se masser, plus cuisiner.
Bah, la prochaine fois, je pense qu'il faudrait que je réfléchisse à faire des podcasts en cuisinant.
Ah bah en cuisinant.
Peut-être que ça pourrait apporter une autre teneur.
Bah, je te ferai un cours de cuisine si tu veux.
Et ben on fera un cours de cuisine à la limite, ça pourrait être rigolo. Et on a fait une grosse digression du coup, parce qu'au départ, avant de parler du langage et de l'attention par rapport au langage, tu parlais du fait que tu étais allée à l'école des plantes pour pouvoir faire du gui différemment, c'est ça? Pour pouvoir faire du gui avec les plantes.
Oui, alors en fait, mon idée quand j'ai créé mon business plan pour faire les bird massages, je suis partie tout simplement avec l'idée que les doshas, donc les typologies, souffrent de différents déséquilibres quand ils sont en excès. Et je me suis dit, mais alors, il doit bien y avoir des plantes qui sont mieux pour tel ou tel dosha. Donc j'ai créé des formules adaptées, mais il me fallait connaître les plantes pour pouvoir créer les formules. Mmh. Et du coup, école des plantes. Et donc...
C'était le lien avec le spirituel. On a fait 4 digressions. C'est pas mal quand même. On a fait
un bon niveau. Je suis très forte.
Et t'inquiète, si je regarde le téléphone, c'est juste parce que les enregistrements sont sur une heure. Et que du coup, après, il faut que je coupe et que je relance.
Voilà. Ah, d'accord.
Tout le monde sait comment j'enregistre. Voilà. la digression, c'était même sur la partie que tu disais, tu étais allé pour apprendre les plantes. Et au final, tu avais appris beaucoup plus, même sur des dimensions spirituelles, parce que là-bas,
C'est impressionnant. C'est une école de la vie. De un, parce qu'on est des profils complètement différents, hétéroclites. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des reconversions, il y a des gens qui sortent du bac, il y a tout type de profils, tout type de parcours, des chimistes, et à côté de ça, des personnes qui font de l'horticulture, ou qui viennent, comme moi, du commerce, ou qui font de la cuisine, ou simplement des grands voyageurs. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais quand on commence l'école des plantes, on est dans un certain état et quand on sort, on est différent. Parce qu'on a pris, on prend... En fait, je trouve que ça nous apprend à prendre le temps d'apprendre à voir tout ce qu'il y a autour de nous. On ne se rend pas compte, mais on a énormément à apprendre des autres, des plantes, de notre environnement, de ce qui nous pousse à avancer, de comment notre corps fonctionne, parce qu'il y avait aussi des cours de physio avec un médecin, Anne Simon, elle est merveilleuse, elle a toujours tonne d'histoires, parfait. Et non, c'est beaucoup plus, je trouve, qu'une simple école. C'est plus une école de la vie qu'une école que des plantes.
Et elle se situe où, cette école? Pour ceux que ça pourrait intéresser.
Ah oui, bien sûr, elle est au-dsus de l'Opéra à Lyon, donc c'est rue Alsace-Lorraine, et il y a une antenne aussi rue Royale, dans le premier arrondissement de Lyon.
D'accord, ok.
Donc j'ai plus les numéros en tête, peut-être 17 rue Royale.
On les trouveront avec une recherche.
Oui.
après l'école des plantes, je rebondirai sur le langage des oiseaux, parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans les interactions que j'ai avec les gens, et j'ai jamais creusé énormément. Et donc tu parlais que l'origine c'était par rapport aux alchimistes qui codaient leur langage pour retransmettre des choses qu'il fallait pas que ça soit attrapé.
Bah, par exemple, c'est la cantine de la souris verte. En fait, c'est une recette.
Okay.
Je la trompe à ces messieurs. Mais ces messieurs, c'est les cieux qui sont pas forcément, c'est pas des hommes.
D'accord.
C'est les cieux messieurs. C'est
messieurs,
ok. Les cieux qui sont au-dessus.
Ces messieurs me disent.
Me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Donc, okay. C'est pas forcément. Ça, c'est pour trouver la pierre philosophale, je crois. Monsieur Patrick Buchanan le raconterait bien mieux que moi. Il est super fort là-dessus. D'ailleurs, il y a toutes ses conférences sur YouTube. Je te conseille d'aller les voir si tu ne l'as pas déjà fait. Il a écrit Le Voyage alchimique. Et là, il va repasser dans toutes les grandes villes où il y a eu des alchimistes.
Et donc, on a une comptine qui est racontée aux enfants.
Ah oui, non, mais complètement.
La souris verte, qui est une recette alchimique pour peut-être trouver la pierre philosophale.
Exactement.
Okay.
C'est pourquoi pas, c'est charmant.
Oui.
Mais comme quoi, mais il y a beaucoup de choses comme ça. Il y en a d'autres de comptines, je ne les ai plus toutes en tête, tu m'excuseras.
Non, mais ce que je trouve fascinant, c'est que c'est des espèces de bribes de notre passé. De choses qui sont volontairement en plus un peu secrètes ou cachées, qui au final
sont
connues de tous et on les répète et on les a tous en tête, mais en fait on n'a aucune idée de ce que ça veut vraiment dire.
Et derrière les mots, on se rend pas compte qu'en fait il y a deux lectures. Par exemple, messieurs pour les hommes masculins, les messieurs au masculin. En fait, c'est les cieux qui sont au-dessus de nous. C'est le genre de choses qu'on peut retrouver dans le langage des oiseaux.
T'en as d'autres exemples du langage des oiseaux ?
Verrou ouvert, c'est l'inverse. On peut inverser. Là, tout de suite.
Un jeu d'inversion comme ça.
Un jeu d'inversion. J'en ai pas qui me vient en tête. Ouais. T'en as, toi ?
Non, moi j'en ai que. Je...
Que tu connais.
Enfin, qui sont pas déclarés ou qu'on m'a pas dit par des personnes qui savent vraiment connaître le langage des oiseaux, mais j'essaie de m'amuser justement
à
réécouter des fois les phrases que je dis. Et essayer de voir si c'est vraiment ce que j'ai voulu dire ou si je l'ai dit juste parce que j'utilise les mots de la mauvaise manière.
D'accord.
Par exemple, réfléchir.
Oui.
Je l'ai toujours utilisé dans le sens de raisonner. C'est-à-dire il faut que je raisonne, il faut que je me pose et puis que intellectuellement en fait je fasse des cheminements pour me dire ah là ok, il faut que je fasse ça ou il faut que je fasse pas ça. Alors que réfléchir, c'est plus proche de chercher quand on regarde la terminologie, c'est plus proche de chercher un effet miroir.
Oui, mais d'ailleurs...
trouver une forme de résonance, en fait. Et donc, du coup, au final, réfléchir, c'est plus essayer de trouver une résonance avec soi-même.
Mm-hmm.
Et donc, du coup, c'est pas forcément que du raisonnement, mais c'est des fois plus le simple fait de se poser avec soi-même et de voir si, émotionnellement, on arrive à avoir quelque chose qui se passe, qui nous valide ou pas ce qu'on est en train de penser intellectuellement. Donc, c'est beaucoup plus fin, en fait, que juste un raisonnement.
Et dans réfléchir, t'as aussi fléchir. Tu cherches à faire fléchir ton esprit contre quoi ? Quelle règle veut te faire te rendre compte de quelque chose où tu as... Qu'est-ce qui impacte ? On peut aussi se poser la question par rapport à ça. Il y a quelque chose qui doit fléchir en toi ou peut-être un dogme, une croyance à laquelle tu étais, dans laquelle tu étais certain, alors qu'il n'y a peut-être pas forcément... Il peut aussi y avoir ça, parce qu'après on peut découper les mots.
Mais il y a un sacré jeu, en fait.
Oui, il y a énormément de choses
à faire avec ce langage-là. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que toi, tu t'en es arrivé là ? C'est lié à l'école des plantes ?
Moi, je suis très curieuse.
Quel était le cheminement,
quel
en fait ?
Quel lien ?
Parce que je ne pense pas que tu as ouvert un onglet sur Google et tu as tapé langage des oiseaux.
Mais c'est qui m'a... Ah oui, c'était quelqu'un, un homme adorable, très gentil, qui, lui, il a un parcours étonnant, ce monsieur. Donc, il est assureur. Et il s'est rendu compte que, en fonction de. Par rapport à la géobiologie, les maisons, comment elles sont faites, si elles ne sont pas énergétiquement très bien positionnées ou très fortes, ou si l'énergie est mauvaise, eh bien, il y a plus de risques. Donc, pour les gens qui l'assurent, lui, c'est moins bon pour son entreprise.
Mmh.
Du coup, il a découvert, il m'a parlé
des triskels. Les triskels, je ne sais pas si tu vois, c'est des formes géométriques qu'on peut, on peut souvent retrouver en Bretagne, qui sont faites souvent en granit, qui ont énormément d'énergie.
Okay.
Et qui vont te permettre de recharger ou décharger les pièces ou de mesurer différentes choses. Donc ça, c'est quelque chose. Et c'est cette personne avec qui on discutait comme ça et qui m'a dit « Ah, ce qui pourrait énormément t'intéresser, c'est le langage des oiseaux. Écoute Patrick Burenstanas.
Ok.
Et donc, en fait, non, il ne m'a pas parlé du langage des oiseaux. Il m'a dit, écoute Patrick Burenstanas, il va t'emmener, ça va être l'alchimie, ça va te plaire. Et du coup, dans une conférence, il a forcément parlé du langage des oiseaux. Sur ce, j'en ai parlé à une amie de ma mère. Et figure-toi que c'était un été. Et 2 mois plus tard, elle me dit, figure-toi qu'un truc super, j'ai trouvé une formation sur le langage des oiseaux. On pourrait la faire toutes les trois.
Okay.
Et du coup, on est partis toutes les trois. Et on l'a fait.
Vous êtes formée, Karim, tu t'es carrément partie formée au langage des oiseaux.
Bah oui.
Okay, d'accord.
Non, mais quand je t'ai dit, je suis curieuse. Je suis curieuse.
Oui, c'est ce qui me semblait. Et, tu t'en sers au quotidien. Enfin, je veux dire, quand tu parles.
C'était plus sur les lettres et sur la symbolique que peuvent avoir les lettres. Et après, comment décrypter. Je ne l'ai pas employé depuis un certain temps. Mais on peut faire beaucoup de choses avec les lettres et même quand on analyse les prénoms. On peut savoir beaucoup de choses avec le prénom d'une personne. On peut voir des fois des chemins ou des choses qui sont plus faciles pour elle ou des choses qui sont juste écrites dedans. Si tu enlèves les... Alors attends, si je prends mon prénom... Si tu regardes, tu enlèves les voyelles, tu prends, enfin, donc le M, c'est l'amour inconditionnel.
Ils ont dit ton prénom, je crois pas qu'on
l'a dit. Mon prénom, M, je m'appelle Morgane.
Voilà, c'est ça. Morgane.
M-O-R-G-A-N-E. Si tu prends, donc la première, c'est l'amour inconditionnel, le M. D'ailleurs, qui est une injonction. Quand on dit M, c'est pratiquement un ordre. Bah, ouais. M, vas-y, okay. T'as plus le choix. donc, j'étais condamnée à être une amoureuse inconditionnelle.
Ok, ça
c'est la base.
Ok.
Après, si tu regardes, alors c'est RGN, ça faisait quelque chose comme énergie. Enfin, c'est l'énergie, donc M l'énergie, on va dire.
Ok.
En gros.
D'accord, c'est ce que tu avais...
Il y avait ça, mais enfin, il faudrait que je le ressorte. Oh, je savais que je devais le relire.
Mais c'est pas grave,
t'inquiète pas. Je suis désolée.
Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est que...
Je t'en parlerai autour de la cuisine.
Voilà, c'est ça, quand on fera la version cuisinée.
Exactement. D'ailleurs, qu'est-ce que tu aimes cuisiner?
Ah, sans transition. Qu'est-ce que j'aime cuisiner?
Ouais, non, mais c'est un saut. Je fais souvent des pas de côté.
Faisons pas de côté. Qu'est-ce que j'aime cuisiner? J'ai pas de préférence particulière.
Salé, sucré.
C'est plutôt salé. Je trouve que c'est plus rigolo de faire des plats salés. Je trouve que c'est plus rigolo.
Oui, ouais, bah ça, je suis d'accord.
Après, pas forcément avec de la viande, parce que j'aime bien expérimenter de la cuisine végane ou végétarienne.
Mm-hmm.
Voilà.
D'accord.
Et après, on peut tout.
De saison, ça va de soi.
Ça va de soi.
D'accord. Bon. Et enfin, des petits producteurs locaux de préférence.
Ça pourrait être même plus rigolo comme ça si on connaît, si on y met le temps et si on y met l'attention pour pouvoir
exactement.
Cuisiner avec des produits de gens qu'on a rencontrés et tout le reste.
Exactement.
Il y a tout un chemin.
Il faudrait que je t'emmène. Alors toi, ça pourrait être bon. Toi et ta douce, bien sûr. Je vous emmène dans un petit, alors le magasin des petits producteurs de la Tombe à Villars-les-Tombes. Donc c'est en Bresse. Bon, c'est à 40 minutes de Lyon, mais c'est vraiment génial. Ils ont des produits, mais les salades, les légumes qui ont été cueillis le matin même, tu les vois, tu as l'impression qu'ils sont vivantes. Et ça donne vraiment envie de manger. Donc ça peut être un parcours. Savoir où on va chercher et prendre le temps pour faire le chemin, ou pour aller de un, ça fait une balade en nature, ce qui n'est pas négligeable. De deux, c'est tu portes de l'attention à ce que tu vas faire pour toi.
et de froid, ça marche bien.
Ouais, c'est ça. Et je trouve ça fascinant aussi, le lien avec ce qu'on disait avant aussi, et ce que tu viens de faire comme pas de côté sur le repas, c'est que si on analyse un repas depuis le début, c'est toute une aventure. Parce qu'il y a quelqu'un qui va... Si tout le monde fait bien son travail, entre guillemets, et prend le temps et met de l'attention, il y a quelqu'un qui va prendre soin de la terre, qui ensuite va planter des choses avec amour aussi, ça va pousser, il va attendre le bon moment, il va y ramasser, il va y préparer pour pouvoir y donner à quelqu'un qui va ensuite lui cuisiner, il va prendre le temps d'y cuisiner. Ensuite, quand c'est cuisiné, ça va être dressé aussi. Ensuite, ça va être partagé à une table où les gens ont été invités, où ils prennent le temps d'échanger, et là, ils mangent. Et tout un cheminement de fou, contrairement à juste aller, à côté, s'acheter un paquet de sushis et manger des sushis en une demi-heure.
Bah ouais.
Ça n'a rien à voir.
Non, ça n'a rien à voir. Mais c'est ô combien plus riche et c'est ô combien meilleur de le faire de la vieille manière, je trouve. Enfin, c'est vrai, on n'a pas toujours le temps et je suis la première à le reconnaître. Et à des fois, quand je n'ai pas le temps, je vais me chercher un sandwich et je mange mon sandwich. Mmh. Et tout va bien et je survis. Mais il me manque quelque chose. À la fin de la journée, il va falloir que je passe une heure à découper un butternut pour me faire une soupe. Et pourquoi pas inviter mes voisins. D'ailleurs, je m'entends tellement bien avec ma voisine que maintenant, quand on a du temps, on se retrouve toutes les deux. On s'est chopé une recette comme elle est américaine, soit sur un site américain, soit sur un site français. Et on passe l'après-midi à cuisiner.
Ok.
Et après, on va en donner en bas ou... Mais c'est super cool. Et il y a une super ambiance dans le quartier. J'aime beaucoup. Je suis nouvelle dans le quartier, mais ça va. J'aime bien.
Ça vient aussi peut-être de toi, comme tu disais. Le fait que toi, tu saches... Enfin, t'essayes de prendre ce temps et d'être dans l'attention. Du coup, tu peux aussi voir les choses qui sont agréables d'un quartier.
Tu aussi.
Vois, tout est peut-être un
peu... Oui, oui. Après, c'est la vision qu'on porte sur le monde qui nous renvoie... qui nous renvoie l'image qu'on a envie de voir aussi.
Et je relèverai aussi ce que tu disais, le lien aussi avec le langage des oiseaux. Je fais des liens tout le temps. Mais c'était le côté, je sais qu'il y a des personnes qui écoutent, qui sont sceptiques souvent sur le côté un peu magique de ce type de sujet, en se disant alors dans ce cas-là, il y a des sortes de messages secrets qui sont passés derrière. Et après aussi le côté est-ce qu'on ne voit pas les messages qu'on a envie de voir, est-ce que c'est pas nous qui interprétons de la manière dont on a envie d'interpréter?
Après, on voit, je pense que, alors je suis une grande idéaliste, je suis une grande utopiste. Et j'aime bien voir ce qu'il y a de beau parce que ça fait du bien à l'âme, tout simplement. Donc, j'ai tendance à entendre ce que j'ai envie d'entendre derrière les mots. Et si on n'a pas envie d'entendre les mêmes choses, on a le droit. Et si on a envie d'entendre des choses négatives, c'est notre droit. Mais on a le droit de vouloir se faire du mal, c'est possible. Le sadomasochisme, ça existe et c'est autorisé. Hein. Enfin, tout le monde a le droit de vouloir se faire du mal soi-même. C'est un peu étonnant, mais... Mais moi, je préfère voir le côté, on peut dire magique, on peut aussi dire poétique, parce que la magie, l'alchimie qui peut se produire entre des mots quand ça fait des vers et que ça fait des rimes et que c'est beau et que ça touche notre âme, c'est une sorte de magie. Une magie, pour le coup, poétique.
C'est là-dessus où je voulais revenir justement, c'est ça, c'est que la personne dirait non, mais tu vois ce que tu as envie de voir quand tu regardes les mots de ton langage oiseau, et j'aurais envie de dire oui, en effet. Il n'y a peut-être pas de grande vérité qui est cachée dans les mots, il y a peut-être juste que moi je suis capable d'en voir, et au final ça n'est qu'un jeu. Et souvent d'ailleurs les gens qui sont liés au langage des oiseaux le disent, c'est tout un jeu. Et au final c'est aussi une conversation, ça peut être aussi une conversation avec son propre inconscient, avec soi-même. Quoi. C'est ce qu'on a envie de voir, au final ça remonte, du coup ça nous donne une information sur ce qu'on avait envie de voir. Et du coup après on peut faire des choses avec soi, ça nous aide à nous connaître, ça nous aide à nous explorer aussi, c'est une manière de pouvoir faire ça. Quoi.
C'est une manière de pouvoir faire ça. À partir du moment où on va être, je trouve, où on se met en mode, on discute, on parle. Donc soit on peut faire chacun des monologues, et dans ce cas-là, il n'y a pas de discussion. Soit on peut rebondir chacun sur ce que... Ça, c'était un prof... Alors là, je vais te raconter une petite histoire. C'est un prof de stratégie quand j'étais à l'ESC. qui m'a dit, donc je ne sais plus sur quoi j'avais rebondi à la fin du cours, et du coup on avait commencé à discuter, on était parti sur une théorie. Et il m'avait dit, bloque cette image, là il vient de se produire quelque chose qui ne se produit pas souvent. C'est quoi ? Ben, on est en train de réfléchir ensemble et pas de réciter quelque chose que je t'aurais enseigné. Et ben, c'est ça aussi, discuter, partager, masser, c'est échanger. En fait, c'est quelque chose qu'on fait ensemble et qui font réémerger des choses qui sont en nous, et ça nous permet de, le regard de l'autre nous permet d'aller plus loin sur notre propre raisonnement et vice-versa, bien sûr. Donc, c'est forcément quelque chose de positif. Et le fait qu'il soit le langage des oiseaux, c'est des choses qui peuvent rejaillir. Mais par exemple, tu peux dire réfléchir ou raisonner ou quelque chose comme ça. Et moi, je vais dire, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que tu cherches à refaire sonner en toi ou refaire fléchir en toi? Mais ça, tu l'aurais pas forcément...
Non, mais c'est ça, c'est pas du tout la manière dont moi je l'avais interprété.
Oui.
Donc, mais... du coup, ça m'ouvre une question,
oui,
sur laquelle je peux rebondir moi-même,
voilà,
avec ma propre interprétation, et qui pourra t'apporter à toi dans ton raisonnement.
Exactement.
Et du coup, on s'amuse au final avec les mots, mmh, et avec les raisonnements, mmh, qui créent des réflexions.
Exactement.
Super.
Nous sommes très flex.
Super. Et ben, je crois qu'on arrive, à notre temps de... Oui, c'est ça. Ça fait une heure et quart, ce qui est pas mal.
Ce qui est...
Et puis, ben, on aura peut-être une suite, alors, dans ce cas-là, si jamais on va faire ce moment
de
cuisine. Et il y a une dernière idée qui me venait en tête avec la cuisine, et je pense que ça rejoindra ce que tu disais au tout début, justement. C'est pour appuyer un coup de plus sur le côté de prendre le temps.
Mm-hmm.
C'est que, pareil, le côté sceptique dirait, il y a personne qui dit que si jamais on met notre intention et on met notre énergie dans l'alimentation, alors l'alimentation est meilleure. Mais au final, ce que je me dis avec notre discussion, c'est aussi que, bah, tout simplement, en fait, si on prend du bon côté ce temps,
mm-hmm,
et qu'on le partage pendant qu'on cuisine, et que toutes les autres personnes l'ont fait, et qu'on sait que les autres personnes l'ont fait aussi avant, le producteur et tout le reste, ça crée juste de la joie, en fait, sur la conception. Et au final, on mange avec beaucoup plus de joie.
Mm-hmm.
Et donc, il y a de grandes chances que ça soit beaucoup plus bénéfique aussi pour nous, même si, matériellement, l'alimentation est la même.
Ça, c'est bien vrai.
Il n'y a pas de transmission forcément magique dans l'aliment.
Non.
C'est plus nous qui sommes...
C'est nous la magie.
Sommes différents. C'est nous la magie. OK, parfait. Et bon, on finira là-dessus, si ça te va. En tout cas, merci encore d'avoir été là avec moi pendant cette discussion. Et juste pour finir, est-ce que tu aurais peut-être le nom de ton projet, ou est-ce que tu aurais envie de partager quelque chose par rapport à tes projets, ou un lien que les gens pourraient aller voir pour en savoir plus sur ce que tu fais
Ils peuvent chercher, s'ils veulent, Heidi Beurre Clarifie sur Instagram ou bien sur Facebook. Sinon, on a un site qui est en ligne, c'est igarden.fr. Et pour ce qui est de la suite, je vais, je pense, bientôt proposer, dans ce cas-là, il y a mes coordonnées, il me contacte, et on voit ce que l'on peut faire ensemble. Mais je pense, des moments de partage autour de la cuisine, autour du bien-être, proposer cela à plus de personnes. Et pourquoi pas venir chez moi.
Ok, parfait. Eh bien, écoute, c'est une invitation prise. Eh bien, merci bien, en tout cas, à toi. À bientôt.
Avec plaisir. À très vite.
Alors, comment est-ce que vous vous sentez ? Est-ce que vous avez envie d'aller la voir pour lui demander une petite séance pour prendre soin de vous ? Elle vous a donné ses contacts et je vous les remettrai dans le descriptif du podcast. En tous les cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, de mon côté, que ce soit cet épisode ou que ce soit l'épisode précédent avec Jordan, ça me fait du bien parce que ça me sort un petit peu justement du rationnel et ça me permet d'explorer un petit peu plus avec mon ressenti et mon cœur qu'avec mon cerveau, ce qui n'est pas mal de temps en temps. Comme à chaque fois, et encore plus cette fois, parce que c'est une nouvelle année, et donc avec les nouvelles années, on a des bonnes résolutions, et bien j'espère que dans vos bonnes résolutions, ça sera d'aller mettre quelques étoiles, un petit commentaire, ou quoi que ce soit qui puisse faire remonter un petit peu le podcast dans les moteurs de recherche. Bien entendu, vous savez que dans notre monde, il n'y a pas le choix que de demander ce genre de choses pour juste être un minimum visible, pour que des gens qui pourraient s'y intéresser et soient curieux puissent trouver source à leur curiosité. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite en tous les cas une bonne année 2020. J'espère qu'elle sera fructifiante en termes de découvertes, de rencontres et d'explorations. Et amusez-vous bien, surtout jouez avec cette réalité, car au final, on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'on fout là. Donc autant en profiter. Des bisous, et puis à très bientôt pour un prochain épisode.